Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, louer un appartement à un particulier quand on porte un nom africain, bon courage. C'est deux fois moins de réponses que pour les autres candidats, résultat d'un testing inédit d'SOS Racisme que nous vous révélons ce matin. La montagne d'or a du plomb dans l'aile, la plus grande mine d'or à ciel ouvert à l'état de projet en Guyane ne verra peut-être pas le jour. Pas écolo-compatible pour Emmanuel Macron. La campagne des européennes, Édouard Philippe au secours de Nathalie Loiseau hier soir à Caen, pendant que François Hollande fêtait à sa manière les deux ans de l'élection de son successeur Macron, deux ans. C'est l'une des ministres du gouvernement qui sera là dans quelques instants.
Oui, il s'agit de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Elle est l'invitée du grand entretien de la matinale. Appelez-nous, dialoguez avec elle, 01 45 24 7000, les réseaux sociaux, l'application mobile de France Inter.
À la une également, l'ouverture de la toute nouvelle unité pour détenus violents dans une prison du Nord. Nous y serons, la journée de l'asthme et les nouveaux traitements qui marchent. Et des crevettes pailletées dans les bassins et dans les salles, un film comme un hymne à la tolérance.
France Inter.
Prenez 250 propriétaires d'appartements parisiens qui ont passé des annonces sur Le Bon Coin et PAP. Envoyez-leur des milliers de candidatures test et faites le compte en fonction des consonances des noms. L'opération inédite a été menée par SOS Racisme. Ses résultats sont édifiants. Les particuliers, Claire Chaudière, discriminent encore plus que les agences immobilières.
Pendant plusieurs mois, des centaines d'annonces ont été ciblées par une petite équipe de testeurs derrière des ordinateurs.
Donc là, on est sur le site du Bon Coin.
Julia Levivier du pôle juridique d'SOS Racisme.
Je suis titulaire d'un CDI et je dispose de garants.
Plusieurs candidats fictifs pour une annonce. Ici, Julien, Adama et Mehdi. Même heure d'envoi, même profil, même garantie. Mais formulé un peu différemment. Réponse reçue par Julien.
Je vous contacte en début de semaine prochaine pour une visite cordialement. Adama n'a jamais eu de réponse. Mehdi n'a jamais eu de retour non plus. Les résultats sont très alarmants.
Moitié moins de chance pour les candidats perçus comme maghrébins, encore moins pour les candidats perçus comme subsahariens. Le Bon Coin et PAP affirment être déjà mobilisés sur cette question. Corinne Joly préside de particulier à particulier.
Bien sûr que ça nous regarde les relations entre les particuliers. Notre métier c'est quand même de faire en sorte qu'ils se rencontrent et que ça se passe bien. Il faut qu'on continue clairement d'informer et je pense que les locataires de leur côté peuvent y contribuer en se présentant de manière assez complète parce que c'est quand ils se présentent qu'en fait on se rend compte que les préjugés sont infondés.
Des préjugés parfois inconscients, reconnaît SOS Racisme, mais qui doivent impérativement faire l'objet d'un plan d'action de la part des pouvoirs publics et des plateformes qui pourraient, martèle l'association, aller beaucoup plus loin dans la vigilance et la prévention.
Et si la discrimination est moins forte dans les agences immobilières, elle est encore très importante. 38% de chances en moins de recevoir une réponse avec un patronyme subsaharien.
Là, c'est un nom, Florence, 8h03, qui fait rêver comme au temps de la conquête de l'Ouest.
La montagne d'or, projet de mine dans la forêt tropicale guyanaise, qui tombe mal en pleine alarme sur la survie de la biodiversité. En recevant le rapport des experts de l'ONU hier soir, Emmanuel Macron l'a donc quasiment enterré. Pas compatible, dit-il, avec son ambition écologique, Célia Quiret.
Ce projet de mine d'or à ciel ouvert semble empoisonner le gouvernement depuis quelques mois. Il prévoit d'exploiter une mine de plus de 2 km de long à partir de 2022 en pleine forêt tropicale. Le patronat local est pour, certains élus aussi, mais les associations de défense de l'environnement sont contre, justement pour éviter des pertes considérables de biodiversité. Plus de 1500 hectares de forêt sont en jeu, plus de 2000 espèces menacées. Et en métropole, certains proches d'Emmanuel Macron comme Pascal Canfin s'y opposent fermement. Le candidat LREM aux européennes ne s'en est pas caché. Hier soir, le président de la République s'est montré pour le moins critique sur le sujet, enterrant presque le projet.
J'ai demandé une évaluation très claire de ce projet. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, ce que je sais du projet n'est pas compatible avec l'ambition que je viens de fixer. Et donc, il y aura une évaluation complète pour le prochain Conseil de défense sur ce sujet et une décision formelle et définitive sera prise en concertation aussi avec le territoire.
De son côté, le ministre de la Transition écologique doit se rendre en Guyane en juin. François de Rugy a promis une décision avant l'été. Mais d'ici là, le président de la République a déjà prévu de consacrer son prochain Conseil de défense écologique le 21 mai à la biodiversité et il sera question en priorité de ce sujet.
Effectivement, de la montagne d'or, de la lutte contre le gaspillage alimentaire et d'un changement profond des modes de production. Voilà les priorités énumérées par Emmanuel Macron hier soir en matière de sauvetage de la biodiversité.
L'écologie ou la campagne des européennes.
Deux meetings, deux ambiances hier soir dans la majorité. Pascal Canfin, d'un côté, pour le versant vert du programme européen. La tête de liste Nathalie Loiseau de l'autre, soutenue par Édouard Philippe en réunion publique à Caen pour un grand débarquement, Thomas Schoener.
C'est Nathalie Loiseau elle-même qui utilise cette image en ouverture de son discours.
Nous sommes à Caen et ça ressemble un petit peu à un débarquement allié.
Un débarquement avec des ministres en formation serrée, Muriel Pénicaud, Gabriel Attal, Sébastien Lecornu, une poignée de perturbateurs qui se présentent comme des gilets jaunes, ça ce n'était pas prévu.
Allez, cassez-vous.
Le Premier ministre, Édouard Philippe, finit par monter sur scène. Il s'adresse directement à la tête de liste.
Tes compétences, ta précision, ton honnêteté, ta solidité, ta patience, toutes ces qualités sont importantes pour faire campagne et toutes ces qualités sont essentielles pour être un excellent député européen.
Des compliments et ce conseil, restez calme face aux polémiques, ne pas perdre le chemin. Nathalie Loiseau n'est pas seule, les militants n'en doutaient pas, mais c'est aussi bien de le voir.
Ça ne peut pas lui nuire, plus elle aura de soutien. Et...
Elle était peu connue avant d'être tête de liste. L'échéance approche et il faut mobiliser toutes les forces. Quoi.
Cette liste Renaissance qui est la vraie liste du rassemblement.
Mobilisation générale, le meeting se termine avec un dialogue en direct vidéo avec Pascal Canfin, le numéro 2 de la liste, en meeting à Paris.
Pour l'Europe, pour notre avenir collectif, et on va le gagner ce combat.
À Caen, Thomas Schoener, France Inter.
Voilà, et les meilleurs moments de ce meeting sont à revoir ou à découvrir sur franceinter.fr. La droite LR, elle était réunie à Marseille. François-Xavier Bellamy a dénoncé le déni de réalité au sujet de l'immigration. Selon lui, il n'y aura plus un mort en Méditerranée le jour où on ne pourra plus rentrer illégalement en Europe. Les européennes dans 3 semaines donc. Ce sera le premier test électoral pour Emmanuel Macron qui fête aujourd'hui les 2 ans de sa victoire. 2 ans qu'il a pris la place de François Hollande. Et l'ex ne se lasse pas de lui faire la leçon, comme hier soir à Paris. Soirée d'hommage à Léo Lagrange, ancien ministre du Front Populaire, suivi par Laurence Perron.
Un petit parfum de réunion d'anciens combattants socialistes, pas anonyme du tout. L'ancien secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis accueille Jean-Luc Benamias.
Bonsoir à la primaire de la gauche.
Ni remords, ni regrets.
Il y a là d'anciens ministres, Georges Pollangevin, Patrick Kanner, d'ex-députés, et c'est poursuivi par un petit nuage qu'arrive l'ancien président. La porte se referme sur les invectives, Macron c'est ton bébé, il t'a trahi, et François Hollande rappelle à sa façon que ce 6 mai est aussi son anniversaire.
Un anniversaire, je ne sais lequel.
Tout son hommage au ministre des Sports et de la Jeunesse de Léon Blum est une manière de pointer en creux les erreurs de son successeur.
Comment réformer un pays sans qu'il y ait ce concours, c'est la place des corps intermédiaires.
Sur l'Europe aussi, il fait la leçon, ne pas se tromper de combat. La présidence de la Commission européenne ne se joue pas contre les nationalistes, mais bien contre la droite. Un petit message pour la gauche enfin.
Rompre avec le réel, au point d'être rattrapé par lui, s'y adapter, au risque d'être mangé par lui, mourir dignement ou trahir. Pour durer.
Sortie d'estrade, selfie et petite dédicace.
C'est toujours du bon, hein.
Dis-moi, on n'abandonne pas là. Hein.
Quand on lui demande s'il est définitivement de retour, il cite Léo Lagrange, ne traçons pas qu'un seul chemin, ouvrons toutes les routes.
Ils avaient incendié le PH Sud de Narbonne en décembre en marge d'un défilé de gilets jaunes. 4 hommes ont été condamnés hier soir à 1 an de prison ferme. À l'étranger, les 2 journalistes de l'agence Reuters emprisonnés en Birmanie sont libres. Ils avaient été condamnés à 7 ans de prison pour avoir enquêté sur les massacres de musulmans Rohingyas, ce qui leur avait valu le prix Pulitzer. Ils ont été amnistiés avec 6500 autres prisonniers.
Il est 8h09, une tournée européenne, Florence, pour sortir du bourbier libyen.
Le chef du gouvernement d'Union national Fayez al-Sarraj est attendu à Rome avant Berlin et Paris en quête de soutien alors que les forces du maréchal Haftar visent toujours Tripoli. Précision sur place avec Omar Waman.
L'offensive des forces du maréchal Haftar stoppée aux portes de Tripoli, Fayez al-Sarraj peut désormais quitter la Libye quelques jours seulement pour faire passer son message alarmiste. Notamment, si l'on en croit le chef du gouvernement libyen reconnu par les Nations Unies, que cette guerre, si elle se poursuivait, pourrait pousser près de 800 000 migrants vers les côtes européennes. Fayez al-Sarraj veut surtout mettre en garde contre un embrasement généralisé en Libye qui pourrait déstabiliser toute la région. Après son étape à Rome, il s'envolera pour Berlin où il sera reçu par Angela Merkel, mais le moment de vérité aura lieu mercredi. Demain, à Paris, le Premier ministre libyen soupçonne Emmanuel Macron de jouer double jeu, officiellement de le soutenir et en sous-main de prendre parti pour l'homme fort de l'Est libyen au nom de la lutte contre le terrorisme. La France, qui a une vision régionale de cette crise, considère, et elle n'est pas la seule, que le maréchal Haftar fait partie de la solution, une position vivement critiquée en Libye où la France est accusée de vouloir le retour de la dictature. Tripoli, Omar Waman, France Inter.
Aux États-Unis, 500 anciens procureurs estiment que Donald Trump serait poursuivi s'il n'était pas président. Ce sont les suites du rapport Mueller sur les ingérences russes pendant la campagne électorale qui justifierait, ils l'ont dit dans une lettre ouverte, des poursuites pour entrave à la justice.
8h10 en France, la toute première unité pour détenus violents.
Elle ouvre aujourd'hui à la prison de Sauquedin près de Lille comme une réponse à la colère des surveillants qui ont subi 4500 agressions l'an dernier. Entre détenus, ce sont 8500 actes violents qui ont été recensés, d'où cette unité qui agira comme un sas de 3 à 6 mois. Mathilde Lemaire l'a visité.
Ici, maximum 10 détenus. Des hommes qui ont frappé un co-détenu ou un surveillant ou qui font craindre un passage à l'acte. L'unité est étanche du reste de la détention, le mobilier scellé au sol, les fenêtres incassables et les règles de sécurité strictes, exemple le passe-menottes.
Bonjour monsieur, je vais vous mettre en place pour la promenade. Veuillez sortir vos mains s'il vous plaît, paume vers le haut, doigts écartés. Je vais procéder au menottage et je vais procéder à l'ouverture de porte.
Les surveillants sont spécialement formés, équipés d'un gilet pare-lames, des cours de promenade individuels. Ce qui caractérise aussi l'unité, le programme d'accompagnement chargé. Martine Marié, directrice de la prison.
L'objectif, c'est de prendre en charge les personnes, qu'on puisse ensuite leur permettre de retourner en détention ordinaire. Des prises en charge très individualisées, très rythmées.
Il y a le yoga, la boxe, l'écriture, la bibliothèque. Aussi les ateliers sur le rapport à l'autorité, la gestion des émotions, le lieutenant Cellier.
En maison d'arrêt classique, vous avez un agent tout seul à l'étage pour 100 détenus. Nous, on a 3 agents. 10 détenus. Un parloir qui s'est mal passé où le détenu revient très agité. Au lieu de l'enfermer tout de suite en cellule et de le laisser seul avec sa frustration, nous on aura ce temps de désamorcer la situation.
Autre clé de réussite du programme, les cellules individuelles et les entretiens avec Fanny, psychologue.
Approcher avec eux ce qu'eux pensent de leur violence, les motivations de leur colère. Souvent c'est des personnes qui ont une très mauvaise estime d'eux-mêmes.
À terme, une unité de ce genre existera dans chaque région. La prochaine ouvrira à Strasbourg.
Des sous pour éviter de lâcher les enfants placés dans la nature à leur majorité. Le budget pour les accompagner va passer de 12 à 60 millions d'euros, annoncé hier soir le secrétaire d'État Adrien Taquet. Actuellement, un quart des moins de 25 ans à la rue sortent de l'aide sociale à l'enfance.
Et c'est une gêne respiratoire, précisément, Florence, plus ou moins forte, plus ou moins handicapante.
Il faut savoir incarner ces sujets. L'asthme touche 8% des Français. Chaque année, il provoque 200 000 hospitalisations et 1 millier de décès. C'est une maladie qui n'est pas toujours bien diagnostiquée, souligne le spécialiste en cette journée de l'asthme, alors qu'elle est de mieux en mieux traitée, Véronique Julia.
4 millions d'asthmatiques en France, c'est une estimation, mais on sait que parmi eux, beaucoup s'ignorent. Le professeur Antoine Magnan est pneumologue au CHU de Nantes.
Le diagnostic n'a pas été fait alors qu'ils ont des problèmes respiratoires depuis des années. Ils toussent tout le temps ou souvent, ils ont des bronchites à répétition.
Et pourtant, quand c'est bien diagnostiqué, les médecins ont des armes. Pour les asthmes légers à modérés, le patient inhalera quotidiennement des corticoïdes locaux pour éviter l'inflammation et des bronchodilatateurs en cas de crise pour améliorer la respiration. Pour les asthmes sévères, qui concernent seulement 10% des asthmatiques, on est longtemps resté assez démunis. La cortisone prise au quotidien a longtemps été le principal remède, mais avec des effets secondaires importants. Depuis un an, l'arsenal thérapeutique s'étoffe. Des biothérapies ciblent avec succès la molécule responsable de l'inflammation. On développe aussi pour certains cas spécifiques la thermoplastie bronchique. Le principe, sous anesthésie générale, l'intérieur des bronches est chauffé pour limiter la capacité des voies respiratoires à se rétrécir.
Il y a quelques centres qui se sont dotés de cette technique qui est maintenant remboursée. Une sonde chauffante va détruire ce fameux muscle qui est à l'origine des symptômes.
Réservée à une minorité de patients, la thermoplastie montre des résultats prometteurs. Elle ne guérit pas mais limite le nombre de crises et les hospitalisations. L'effet semble durable, il se maintient en tout cas sur les 5 ans de recul dont on dispose.
Véronique Julia, et puis la tuberculose, elle augmente de nouveau en Île-de-France, plus 10% entre 2015 et 2017. La maladie est deux fois plus fréquente en région parisienne que dans le reste du territoire. C'est à cause de l'état de précarité de certains nouveaux arrivants en France. Enfin, voici
Le grand bain.
Le grand bain, version Gay Games, les Jeux Olympiques LGBT, l'histoire d'une équipe arc-en-ciel coachée par un champion de natation qui a tenu des propos homophobes. Les crevettes pailletées sortent au cinéma demain, un film signé Cédric Le Gallo et qui déménage, Jacqueline Pétrose.
Excusez-moi, c'est ici l'association homosexuelle pour l'intégration, la tolérance et le respect dans le waterpolo.
La vie de Mathias Le Goff est en train de couler. Il perd ses compétitions, sa fille s'ennuie avec lui et il est mis sur liste noire par la fédération après un coup de gueule contre un journaliste homosexuel. Condamné à un travail d'intérêt général, le voilà au bord du bassin, face à une équipe outrancière de provocateurs qui cherchent à le choquer, et ça réussit, avant qu'il ne comprenne bien sûr l'absurdité de ses préjugés. C'est parfois limite un peu lourd, un peu téléphoné, mais Cédric Le Gallo joue alors la pirouette et saisit l'occasion de rappeler quelques éléments militants indispensables.
Non mais vous savez où on est là ?
À 30 bornes de Dachau.
Un camp où les nazis ont exterminé des juifs, des tziganes,
des opposants politiques, mais aussi des homos. Les Gay Games, c'est pas qu'une énorme fête. C'est aussi le moment où on peut montrer au monde qu'on est solidaire et qu'on existe.
On rit aussi beaucoup, on est ému. C'est un film décomplexé, cru, audacieux. Sexe, drogue, liberté sont autant de moments d'autodérision et surtout d'hymne à l'amour et à l'amitié, sans tabou.
Quand je pense qu'il y en a qui n'ont pas la chance d'être pédés.
Enfin, sachez-le, Nicolas, la cérémonie d'ouverture et le premier film du Festival de Cannes qui commence mardi prochain, tout cela sera projeté dans plus de 500 salles, 550 salles, même en France, en direct. C'est une première qui a été annoncée ce matin sur France Inter par le CNC, le Centre National du Cinéma.
Merci Florence Paracuelos.